Hey, de retour aux amateurs de sport, et je vous rappelle que Claude Raymond sera avec nous à 20h04. Claude sera honoré avec Derek Aucoin, Denis Boucher, Larry Walker lors du passage des Brewers contre les Jays en ville les 25 et 26 mars, avec une grosse soirée, 50 ans des Expos, le 24 mars à Laval. Accueillons maintenant Ray Lalonde, c'est la chronique Sport Business aux amateurs de sport. Bonsoir Ray.
Bonsoir Mario.
Ray, qu'on peut suivre également sur YouTube, SoundCloud et sur Twitter à A Commercial Real Ray Lalonde, tout simplement. Ray, alors plusieurs sujets ce soir à la chronique, tu voulais nous parler entre autres de ces bonnies et sommes garanties aux joueurs de la LNH. La semaine dernière, je m'entretenais avec Mathieu Dash qui nous disait que, en lui suggérant que ça allait être difficile pour des clubs, par exemple, comme Ottawa, que des stratégies de bonnies sur des contrats à la Carey Price, à la Austin Matthews, à la John Tavares, qui placent des équipes dans des situations. Toronto là, va verser autour de 50 millions de bonnies au 1er juillet prochain. Toi, tu as un autre point de vue. Lui, il dit que le cash, le liquide qui entre des ventes d'abonnements de saison pour la saison suivante protège les organisations comme Ottawa. C'est quoi ton point de vue là-dessus, toi?
Ben, c'est un point important quand même à souligner. Pour avoir été dans l'administration des Canadiens pendant 10 ans, là, responsable justement de ces entrées d'argent-là, les gens renouvellent des billets à différents moments selon la performance d'une équipe. Par exemple, si l'équipe se dirige vers les séries éliminatoires, comme c'est le cas avec les Canadiens, l'équipe est moins pressée parce qu'ils savent qu'ils ont toute une durée de série possible pour pouvoir décider à quel moment facturer pour la saison prochaine. Et au pire des cas, Mario, les Canadiens ont toujours eu l'habitude de facturer les 16 matchs de série, ce qui va peut-être être le cas cette année. L'argent qui n'est pas utilisé est renvoyé en direction de la saison prochaine sous forme de premier dépôt. Alors, c'est vrai que l'argent pour les équipes entre de la part des abonnés de saison, entre le mois d'avril-mai jusqu'au mois d'août-septembre. Mm-hmm. Mais pas tout l'argent. Et certaines équipes vont avoir 2-3 paiements possibles pour faciliter la vie
des
aux
détenteurs.
Acheteurs de billets, aux consommateurs.
Ah. Mais ouais. Ça peut vouloir dire quand même que quelques dizaines de millions de liquidités, non? Ça va pas.
Oui, absolument. Parce que c'est quand même des sommes très larges. Quand tu penses à ce que les Canadiens font en billets de saison, tu sais, tu as quand même 15 000 sièges approximativement, qui sont des billets de saison, pas 15 000 personnes, mais 15 000 sièges. Mm-hmm. Tu sais, c'est facilement 70 % de l'amphithéâtre. Cet argent-là, sous forme ou une autre de dépôt ou de paiement complet, c'est des dizaines de millions de dollars. Mais ça peut aller jusqu'au mois d'août. Ça peut même aller se prolonger avec des paiements pour une dizaine de mois. Donc, ce que je veux, mettons, préciser, c'est que toutes les équipes n'ont pas la même liquidité au mois de mai, juin, juillet, en faveur de ces bonnies-là. Toutes les équipes n'ont pas non plus le nombre de détenteurs de billets de saison qu'une équipe riche comme les Maple Leafs ou les Rangers pourrait avoir. Donc, les sommes d'argent varient. Donc, finalement, ce que j'essayais d'expliquer, c'est que les équipes plus pauvres financièrement, je pense aux Sénateurs, je pense aux Panthers, aux Hurricanes, aux Blue Jackets, des équipes, c'est pas des équipes en grande difficulté financière, mais ce n'est pas des équipes qui baignent dans l'huile ou roulent dans l'or comme les Leafs ou les Canadiens. Eux n'ont pas la même liquidité pour compétitionner avec des bonnies garanties payables dans des larges sommes, comme tu mentionnais la somme que les Maple Leafs sont à veille de payer là, pour le début de cette saison. Ça va tourner autour de 50 millions de dollars.
Hey, c'est pas des fans, 60% sur deux joueurs là-dessus, Ray, là. Sur les 50 millions, là, il y en a plus que la moitié pour deux joueurs.
Absolument. Puis les Sénateurs ne peuvent pas compétitionner dans un univers comme ça avec des joueurs de ce niveau-là. Donc, ça les force à prendre forcément d'autres décisions en termes d'avenir de l'équipe.
D'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le commenter avec nous, juste parce qu'on évoque le dossier des Sénateurs. Quand Eugene Melnyk a voulu se faire rassurant il y a peut-être une semaine ou deux en disant que, en promettant qu'elle allait accoter le plafond salarial, que son équipe allait dépenser le maximum permis par la convention collective à partir de 2021 et ainsi de suite. C'est vraiment des paroles en l'air, ça. Le nouveau building ne sera pas prêt en 2021 à Ottawa?
Non, t'as raison là-dessus. Est-ce qu'il s'engage à faire le maximum? Je pense que oui. Je pense que c'est d'abord, Mario, essentiel qu'il le dise, parce qu'il a besoin de lui de nourrir l'espoir des partisans des Sénateurs qui sont déjà un peu fragiles en termes d'assistance et en termes d'engagement dans leur communauté, qu'ils ont besoin de tout faire pour les rassurer. Là-dessus étant, le billet de hockey aux Sénateurs ne coûte pas le même prix qu'au Centre Bell ou au Scotiabank Arena à Toronto. Et deuxièmement, comme tu sais, les Sénateurs ont réduit le nombre de sièges. Ils ont forcément moins de revenus de planifier ou d'estimer pour la prochaine année, ça va être difficile pour M. Melnyk de dépenser au maximum du cap. Mais ceci étant, je ne peux pas commencer à parler pour lui. S'il l'a dit, non, on va le croire jusqu'à preuve du contraire.
Oui, en même temps, on a le droit d'être très, très, très sceptique. Je veux maintenant qu'on se tourne du côté de la Ligue canadienne de football, juste pour parler d'un dossier à faire quand même. Ça saute aux yeux qu'il y a plus d'argent pour les quarts arrière. Tu as des gars comme Bolivie Mitchell, Mike Riley et Trevor Harris. Entre autres, Riley qui a signé là, pour un contrat, là, il va être tout près du million de dollars par année. Est-ce que la Ligue canadienne est rendue là? On a les moyens de payer un quart arrière autour de 700 000, parfois avec des bonnets tout près du million de dollars, oui?
Mario, c'est la question existentielle. Et moi, je ne le crois pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le cap salarial dans la Ligue canadienne, c'est 5,2 millions de dollars canadiens. Tu as 44 joueurs habillés, puis tu en as 46 dans l'alignement, OK, qui font partie de l'alignement officiel. Puis tu en as une autre dizaine, là, qui font partie de l'équipe de pratique qui gagne presque le salaire minimum de l'heure. T'sais, c'est littéralement pas tout à fait juste pour ces gars-là de travailler aussi fort, de gagner si peu d'argent. Ceci étant, ils ont mis en place un cap salarial cette année et pour les années à venir pour les opérations football, c'est-à-dire les 11 entraîneurs puis les 14 membres du personnel football, ça inclut le directeur gérant. Ce cap salarial-là était 2,588, c'est-à-dire presque 2,6 millions de dollars. Si tu fais la somme des deux, tu es rendu à peu près proche de 8 millions. Une équipe qui réussit bien dans la Ligue canadienne, Mario, c'est une équipe qui vend 25 000 billets à peu près 50 $ le billet pour 10 games. Ça donne à peu près 12,5 millions de dollars. Alors, ça, c'est une équipe qui réussit bien. Et ça voudrait dire qu'il leur resterait qu'à peu près 4 millions de dollars pour opérer le club, payer les dépenses. Parce que là, je parlais du cap salarial d'Opération Football, ça, c'est des humains. C'est pas les dépenses d'avion, puis les billets, puis les hôtels, puis tout ça. Alors, ceci étant, Mario, ce que je veux dire par là, c'est que la Ligue canadienne, à mon avis, mon humble avis, ne peut pas se permettre des salaires de 700-800 000 $ même si Bolivie Mitchell, c'est tout un joueur, Mike Riley, c'en est un autre, puis les équipes ont besoin de quart arrière parce que c'est une pénurie, on ne peut pas se payer ces salaires-là.
Ce que je trouve et étonnant, c'est l'écart entre, exemple, le quart arrière et les autres. Tu sais, tu te défonces pour un quart arrière. Si tu vas me dire, c'est la même affaire dans la NFL proportionnellement, là, sauf que tu ajoutes des zéros au bout de l'équation. Mais en tout cas, disons que ça le met vraiment dans une classe encore plus à part qu'il ne l'était le quart arrière de la Ligue canadienne de football, un quart vedette. Là.
Oui, parce que Mario, le salaire minimum dans la Ligue canadienne, c'est 54 000 $ Alors, il y a des gars qui gagnent 54 000 $ Est-ce qu'il y en a beaucoup? Non. Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui gagne 200-300 000 $ dans la Ligue canadienne. Évidemment, là, tu as compris, 5,2 millions divisé par 46 joueurs, ça donne pas un grand salaire. Mais quand tu en payes un 700-800 000, bien là, tu viens de débalancer ta structure salariale et de mettre tous tes œufs dans un panier. Forcément, tu vas devoir sacrifier d'autres joueurs, d'autres positions, où tu auras moins de talent, puis tu vas devoir te contenter du minimum. Alors, personnellement, là, pour comprendre cette business-là assez bien dans la Ligue canadienne, moi, je vais te dire que ça va pas être facile de s'engager dans une concurrence, une enchère à ce prix-là. Quoi qu'en disent les directeurs gérants, c'est sans précédent dans l'histoire de la Ligue canadienne de payer des salaires comme ça.
En même temps, là, et c'est sûr que j'ai pas la preuve de ce que je vais affirmer, mais j'ai l'impression qu'on vient d'officialiser ce qu'on faisait en dessous de la couverte ou en dessous de la table auparavant, parce que j'ai toujours cru, puis j'ai eu des informations également en ce sens, dont je peux pas diffuser les sources ou les preuves, qu'il y a beaucoup de joueurs de la Ligue canadienne, de Doug Flutie, Anthony Calvillo, et j'en oublie, qui recevaient des bonnies ou qui étaient rémunérés de différentes façons pour contourner le plafond salarial, oui.
C'est sûr que pendant des périodes de domination de certaines équipes, les Eskimos d'Edmonton, entre autres, les Alouettes pendant certaines années, tu sais, il y avait toujours des joueurs qui étaient hors de l'ordinaire. Tu sais, puis je veux pas commenter sur qui payait quoi puis qui faisait quoi, mais c'est sûr que des équipes ont toujours été capables de garder des joueurs dans leur ville avec leurs équipes, d'éviter une surenchère venant de d'autres équipes. Et les autres équipes pouvaient se douter à un moment donné comment ils faisaient-ils pour les insérer dans une masse salariale limitée et les garder heureux quand même. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont besoin, encore une fois, de resserrer les taux, et de faire en sorte que les équipes doivent générer plus de revenus et la Ligue doit être plus riche avant de payer des salaires de cette envergure-là. C'est mon opinion. On va voir ce que ça va donner. Là, tu en as 2-3 qui ont signé des gros contrats. Et les autres équipes vont se questionner là-dessus, à savoir comment ils vont faire, eux autres, pour survivre avec un cap salarial de 5,2 millions. C'est à suivre.
Fort intéressant. Et laisse-moi profiter de ta présence à l'émission pour sortir un petit peu du cadre sport et affaires, sport business, pour t'amener sur une de nos passions communes, le basketball. J'aime tout ça de parler de basket de temps en temps, de la NBA. Tu surveilles tout comme moi attentivement ce qui se passe avec les Raptors qui viennent de mettre sous contrat Jeremy Lin. Il y en a qui sont pas sûrs que c'est un bon mouvement de personnel. L'entraîneur qui, pour la première fois, parce que toute l'organisation est à genoux devant Kawhi Leonard depuis le début de l'année, qui a interpellé publiquement Kawhi Leonard en disant qu'on aimerait ça qu'il s'implique davantage. Penses-tu que cette grande année de bouleversement à Toronto va aboutir dans la bonne direction ou tu te demandes?
C'est un bon point, Mario. Moi, personnellement, je pense que les Raptors doivent tout faire ce qui est possible pour gagner le titre cette année. Ça sera pas facile parce que Golden State s'améliore et se réchauffe, si on veut. Là.
Oui.
Commence à jouer au maximum de leur capacité. Ils sont presque invincibles depuis une bonne vingtaine de games. Alors, là-dessus, ce que je vais te dire, c'est que les Raptors sont dans une conférence très compétitive. Indiana, Milwaukee, Boston, Philadelphie et eux, littéralement, ça pourrait être n'importe lequel qui pourrait représenter l'Est. Toute une acquisition, Marc Gasol.
Oui, Gasol, ça, je l'oubliais, ben oui.
Oui, une amélioration entre lui et Valanciunas, aucun doute. Gasol aide les Raptors à avoir 3 joueurs de premier plan. Lowry, Leonard, bien entendu, et maintenant Gasol. Ça prend 3 joueurs pour gagner un titre. 3 joueurs de premier plan. Les 3 sont des joueurs étoiles. Est-ce que c'est meilleur que Durant et Curry? Peut-être pas. Mais est-ce qu'ils sont capables de rivaliser maintenant dans l'Est? Oui. La question de l'insanity, là, Jeremy Lin, oui. Ça va être un joueur d'appui qui va aider cette équipe-là.
Il va amener de l'énergie.
Capable de marquer des points.
Oui.
Un joueur d'énergie, tout à fait. Et je pense que les Raptors font tout ce qui est nécessaire cette année pour gagner, aller loin et
convertir. Garder Kawhi Leonard.
Exactement. Et je pense que pour le moment, là, l'entraîneur a le droit de dire ces choses-là. Leonard n'a jamais été un joueur très impliqué émotivement.
Ray,
c'est sa personnalité.
C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. C'était fort intéressant. Danny Dubé après la pause.